fondue au gris. Entrer s'est avéré bien plus facile que je ne le craignais. Et pour moi, c'était la partie la plus compliquée de ma mission. Ou bien mes commanditaires ont mal évalué leur cible, ou alors ils m'ont largement sous-estimé. Je me plais à croire que c'est la seconde option. Je n'oublierai jamais ce briefing avec mes clients. Ce nom, déjà. The Society of Old Heads and Long Hats. Quel pédantisme. Et puis, ces dégaines de personnages de romans victoriens. J'ignore si ce sont des fans inconditionnels des Penny Dreadful, mais s'ils trouvent amusant de se déguiser comme ils le font, qui suis-je pour juger? Tant qu'ils alignent les billets, ils peuvent bien m'affranchir costumé en licorne arc-en-ciel, peu m'importe. Je n'ai, par contre, tout simplement pas aimé le ton et l'acidité de mon interlocuteur. Ils étaient plusieurs lors de notre rencontre, tous grimés de ces ridicules chapeaux et ces redingotes sombres. Et j'avoue que je ne saurais dire combien ils étaient, tant ils semblaient grouillés dans les ombres de la pièce mal éclairée où nous étions. Mais en fait, seul le grand maigre aux lunettes de soudeur m'a adressé la parole. Après tout, la seule chose motivante qu'il m'ait dite, mis à part l'émolument promis, c'est que je n'aurai jamais à le revoir. Grand bien me fasse. Ainsi, la mission que la SOHLH m'a confiée est de trouver le moyen d'entrer dans les laboratoires secrets de la Clockwork Incorporated, caché dans un puits de mine épuisé quelque part dans le Yorkshire, et d'y dérober un échantillon ou des documents sur l'avancée de leurs recherches sur les nanomatériaux autonomes. Le grand sinistre n'a même pas daigné masquer son scepticisme quant à mes capacités à accomplir cette mission. À se demander pourquoi il cherche tant à gâcher mes ressources et son argent. Car devant son attitude dédaigneuse, je lui ai réclamé un acompte qu'il n'a pas hésité une seconde à me donner, là, directement en liquide. Je dois dire que là, il m'a un peu soufflé, le sinistre. Ce liquide m'a permis de me procurer ce matériel clandestin si particulier, qui a déjoué aussi facilement les mesures de sécurité de la Clockwork. Grâce à ce sésame électronique, me voilà dans les profondeurs du silo secret sous l'identité d'un certain Liam Westmoreland, doté de l'accréditation C4. Peu importe ce que ça veut dire. Si entrer dans les locaux était pour moi la plus grande difficulté, la suite n'est pas pour autant une balade de santé. La Clockwork est si secrète que je n'ai pu trouver aucun renseignement dessus. Du coup, j'avance à l'aveuglette, tout en déployant mes talents d'acteur pour laisser croire à quiconque que je croise dans les couloirs que j'ai toujours travaillé ici. Heureusement, la Clockwork se voulant à la pointe de la high-tech, des écrans interactifs ornent les corridors et les ascenseurs. Affichant des vidéos de paysages bucoliques la plupart du temps, il suffit de les effleurer pour accéder à des tas d'informations pratiques. Comme par exemple la localisation du laboratoire de recherche des nanomatériaux, piloté par un certain David Tsitsakis. Je me contente donc, après avoir bu un thé et échangé quelques banalités avec des collègues croisés au réfectoire, de me diriger vers l'un des ascenseurs et, avec tout le naturel d'un employé aguerri, je demande l'accès au 12e sous-sol. Lorsque les portes s'ouvrent, je découvre un petit hall distribuant trois espaces. À ma gauche, ce que j'imagine être le laboratoire puisqu'il est fermé par un véritable sas de sous-marin. Une grande fenêtre, qui ressemble à un hublot de vaisseau spatial, me laisse voir différents matériels scientifiques dont j'ignore complètement les fonctions, et des armoires éclairées dans lesquelles sont rangées des boîtes transparentes, contenant ce qui semble être une pâte gris sombre. À droite, une salle de bureau classique. J'y découvre trois personnes concentrées sur de vastes écrans affichant des colonnes de données, des schémas électroniques et des représentations en 3D de molécules. Juste en face de moi, une troisième porte donne sur des toilettes et douches, comme l'atteste le pictogramme qui y est collé. Alors que je jauge la situation, l'un des scientifiques reporte son attention sur son smartphone dont l'écran vient de s'éclairer. S'en saisissant, il se dirige soudain vers la sortie du bureau. Aussitôt, sans réfléchir plus avant, je traverse le petit couloir et me précipite aux toilettes. Fort heureusement, l'homme a le nez sur l'écran de son téléphone et ne m'a pas vu. De derrière la porte, je l'entends sortir et emprunter l'ascenseur. C'est le moment. Je reviens dans le couloir et, accroupi, j'entreprends de déverrouiller le sas du laboratoire. Grâce à mon gadget sophistiqué, l'opération ne prend qu'une dizaine de secondes. Je surveille brièvement les deux chercheurs, mais ils sont toujours focalisés sur leurs écrans. J'entre dans le laboratoire. L'air est sec et stérile, et un bruit de ventilation étouffé m'enveloppe. Je jette un rapide coup d'œil, mais je dois me rendre à l'évidence. Les gentlemen de la SOHLH ne sont pas à la page. Des documents à voler ? Mais nous sommes en 2020, tout est dématérialisé. Et à moins d'arriver à copier des tas de fichiers, sans doute protégés sur une clé, je n'aurai rien de ce genre à ramener à ces messieurs chapeautés. Il ne me reste que les échantillons. Fort obligeamment, les laborantins ont soigneusement étiqueté chaque boîte. Bien que je ne comprenne pas leur nomenclature, une seule chose m'intéresse, les dates. Je parcours rapidement les rayonnages à la recherche de la plus récente. J'ouvre l'armoire et m'empare de la boîte portant la date de la veille. Le temps de refermer l'armoire, j'entends un déclic et un bip étouffé. Je cherche l'origine du bruit, mais un choc me secoue la main. Je baisse les yeux vers la boîte que je tiens. L'étrange pâte est en train de soulever le couvercle. Je n'ai pas le temps de réagir que l'opercule est éjecté sous l'impressionnante pression du fluide gris qui, en une fraction de seconde, bondit vers moi et m'asperge le visage. Durant quelques secondes qui me semblent durer des heures, je suis aveugle et j'étouffe. Et puis, je sombre dans les ténèbres. Lorsque je me réveille, je suis allongé au sol. Je constate avec soulagement que je suis encore seul dans le laboratoire. À ma montre, il ne s'est écoulé qu'une minute, à peine. Je me relève péniblement. J'ai une forte migraine, l'impression que mes yeux vont surgir de leur orbite et la gorge sèche. Mes souvenirs sont confus. Mon regard se pose au sol, sur la boîte de plastique, vide. La pâte grise, elle m'a sauté au visage. Où est-elle ? Encore à genoux, je tente de me relever, mais une douleur impossible me coupe en deux au niveau du sternum. Je crois vomir et manque de m'évanouir sous la violence de la brûlure. Puis, cela passe. Je porte la main à mon visage pour en essuyer la sueur, mais j'arrête immédiatement mon geste. Ma main est gris sombre, avec des reflets métalliques. Je me retrousse les manches pour constater que tout mon épiderme a pris la même teinte. Je bondis vers l'armoire pour tenter d'apercevoir mon visage. Je retiens un cri d'horreur. Ma peau est identique, grise. Englouti dans un flot de panique, je ne songe plus qu'à une chose, sortir d'ici, fuir. Il se passe alors quelque chose que je ne peux expliquer en mots. D'abord, l'impression de me liquéfier, de me dissoudre. Ma vue se transforme. Je peux voir la pièce entière autour de moi. Et comme si j'étais porté par un torrent furieux, ce qui est moi et pas moi se précipite à une vitesse ahurissante au travers d'une grille d'aération. Je parcours ainsi en un battement de cœur, que je ne ressens plus, des kilomètres de gaines et de tuyauteries, avant de me recracher par un évent contre la terre de l'extérieur. Lorsque je parviens à réaliser ce qui m'est arrivé, je suis à nouveau moi-même. Si ce n'est que je suis nu j'ai la peau intégralement d'un gris iridescent du carbone. Il va falloir que j'aie une conversation avec mon client. C'était Fondue au gris, un conte dans l'univers de la Société des vieilles têtes à long chapeau. Écrit, narré et mis en son par Vincent Corlet. Une production signée Georges Fauveau et Vincent Corlet pour l'association Son mot à dire.